présente La médaille de Daniel Steele, lu par Valérie Mouzzi. À mes enfants chéris, si courageux. Béatrix, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Nous avons chacun nos combats à mener, nos propres façons de survivre, nos pertes à endurer et à accepter. Il nous arrive à tous d'être accusés à tort et de devoir renaître de nos cendres. Soyez aussi courageux que possible. Battez-vous avec gentillesse, compassion et indulgence. Aimez de toutes vos forces, soutenez-vous les uns les autres. Et rappelez-vous toujours combien je vous aime et comme je suis fière de vous. Avec tout mon amour, Maman Daniel Steele. Appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi, dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France ! Le courage, c'est la force de surmonter le danger, le malheur, la peur, l'injustice, tout en continuant d'affirmer que la vie, malgré tous les chagrins, est belle et bonne. Dorothy Thompson. Chapitre 1. Dans son appartement de la rue du Cherche-Midi, à Paris, Delphine Lambert lisait le Figaro avec la plus grande attention. Ses longs cheveux bruns masquaient en partie son visage sérieux. Historienne et journaliste politique, elle écrivait régulièrement des articles pour la presse et avait déjà, à 29 ans, publié deux ouvrages salués par la critique. Georges Poitier, son compagnon, l'observait en souriant. « Qu'est-ce que tu cherches ?» s'enquit-il alors même qu'il connaissait la réponse. On était le 1er janvier. Or, chaque année, à l'occasion du Nouvel An et du 14 juillet, une liste paraissait dans le journal. Et, chaque année, Delphine la consultait scrupuleusement. « Tu sais bien ?»« Ma grand-mère, » répondit-elle sans relever les yeux, par crainte de perdre le fil. Il n'y avait pas moins de 500 noms sur cette page. Découvrirait-elle enfin parmi eux celui qu'elle rêvait d'y voir depuis ses 17 ans et qui n'y avait jamais figuré malgré tous ses efforts ? Combien de temps vont-ils attendre encore ? Maugréa-t-elle. Sa grand-mère, Gaëlle de Barbet-Pasquier, avait 95 ans. Et la liste qui intéressait tant Delphine recensait les futurs récipiendaires de la Légion d'honneur. Gaëlle n'avait jamais demandé à être décorée, cela lui semblait parfaitement inutile. C'était sa petite fille qui en avait fait une cause sacrée, une question de justice, comme elle aimait à le répéter. Dans la famille, tout le monde savait avec quelle énergie elle s'était battue pour que sa grand-mère soit enfin innocentée et ses mérites reconnus. Gaëlle, de son côté, était en paix avec son passé. Les événements pour lesquels elle aurait pu être récompensée avaient eu lieu pendant la guerre. Autant dire, il y a une éternité. Elle n'y pensait presque jamais, sauf lorsque Delphine abordait le sujet, ce qu'elle ne faisait que rarement aujourd'hui. La jeune femme connaissait l'histoire par cœur. Le courage de sa grand-mère avait été pour elle une source inépuisable d'inspiration et de motivation. Gaëlle incarnait à ses yeux le parfait exemple de ce qu'un être humain devrait être. Et quelle que soit la décision du gouvernement de réparer ou non les injustices du passé en distinguant la vieille dame, celle-ci resterait pour Delphine une véritable héroïne, comme elle l'avait été pour de nombreuses personnes durant l'occupation, 79 ans plus tôt. Alors qu'elle continuait d'éplucher la liste, Delphine se figea. les yeux écarquillés. Elle relut le nom pour s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée, puis elle regarda Georges avec stupéfaction. « Elle y est ? Elle est dans la liste ? C'est incroyable !» Son vœu se réalisait. Toutes ces années de recherche, toutes ces lettres envoyées, tout ce temps à harceler les membres de la grande chancellerie, cela avait porté ses fruits. Sa grand-mère allait recevoir la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Delphine avait les larmes aux yeux et les mains qui tremblaient lorsqu'elle tendit le journal à Georges. Gaëlle de Barbet-Pasquier. Le nom était bien là, écrit noir sur blanc. Georges se pencha au-dessus de la table du petit-déjeuner pour embrasser sa compagne. Il était fier d'elle. « Bravo, chérie, tu as réussi. » Gaëlle était sans conteste une femme formidable. Le monde entier allait bientôt le savoir, à commencer par ses compatriotes. Impatiente de lui annoncer la nouvelle, Delphine se leva pour lui téléphoner. À tous les coups, sa grand-mère n'avait pas pris la peine de lire le journal ce matin. Gaëlle n'avait jamais été très optimiste à ce sujet, considérant les tentatives de sa petite-fille aussi futiles qu'illusoires. Celle-ci venait de prouver le contraire. Sa persévérance avait payé. Elle tenta d'abord de la joindre sur le portable qu'elle lui avait offert. Comme souvent, l'appel bascula directement sur la boîte vocale. « Elle ne l'allume jamais, cet appareil », bougonna-t-elle. La vieille dame prétendait qu'il était trop compliqué à utiliser et qu'elle n'en avait pas besoin. Elle préférait se servir de son téléphone fixe. Delphine l'appela donc sur ce dernier et laissa sonner longtemps, au cas où sa grand-mère serait occupée ou dans son bain. Mais elle n'eut pas plus de succès sur cette ligne et le répondeur était débranché. Frustrée, elle rejoignit Georges à la table de la cuisine. « Elle est peut-être à l'église, » suggéra-t-il. « Ou en train de promener sa chienne. Je réessaierai dans un moment. » Une demi-heure plus tard, cependant, Gaëlle restait injoignable. N'y tenant plus, Delphine appela sa mère, laquelle éclata en sanglots en apprenant la nouvelle. Que Gaëlle obtienne cette récompense avait été leur désir le plus cher à toutes les deux, même si l'intéressée était trop modeste pour penser la mériter. C'était si contrariant de ne pas réussir à la contacter. Mais Gaëlle était encore en pleine forme, et elle ne manquait pas d'idées pour occuper ses journées et ses soirées. Elle adorait voir ses amis, visiter des musées, aller au théâtre ou faire de longues promenades avec sa chienne dans son quartier ou sur les quais de Seine. Delphine raccrocha, puis retourna vérifier dans le journal que le nom de sa grand-mère figurait bien sur la liste, qu'elle n'avait pas été victime d'une illusion. Cette nomination était la concrétisation d'un immense rêve. Ce jour-là, comme à son habitude, Gaëlle Pasquier s'était levée tôt. Elle avait fait ses étirements avant de savourer ses tartines grillées accompagnées d'un bol de café au lait, son petit rituel du matin. Elle avait ensuite pris un bain et brossé ses cheveux d'un blanc de neige, coupé en un carré chic qui encadrait son visage aristocratique. Puis, elle s'était habillée pour aller voir son amie Louise. Celle-ci habitait comme elle dans le 7e arrondissement. Cela faisait malgré tout une petite trotte, de la place du Palais Bourbon à la rue de Varennes. Situé dans un quartier prisé, l'immeuble de Gaëlle n'avait cependant rien de tape à l'œil. L'appartement était petit mais élégant, décoré de tableaux magnifiques et de meubles anciens. Il s'en dégageait une atmosphère chaleureuse et accueillante. Gaëlle appela sa chienne, Joséphine, un teckel marron à poils longs qui lui avait été offert par ses petits-enfants. Elles étaient devenues inséparables toutes les deux. Dès qu'elle vit sa laisse, Joséphine bondit de joie et Gaëlle lui passa le collier autour du cou en lui parlant de la belle promenade qu'elles allaient faire. Malgré son grand âge, la vieille dame vivait seule et s'en sortait très bien. En semaine, une aide à domicile venait dans la journée, mais elle se préparait elle-même ses repas du soir et allait au restaurant avec ses amis le plus souvent possible. 7 ans auparavant, à 88 ans, elle s'était résolue à prendre sa retraite. Gaëlle avait été conservatrice d'un petit musée réputé qu'elle avait aidé à fonder et auquel elle avait consacré presque 50 ans de sa vie. Aujourd'hui, elle continuait de visiter toutes les expositions importantes qui se tenaient à Paris. Elle s'y rendait la plupart du temps avec Louise, de 10 ans sa cadette, et elle aussi en excellente forme physique. Les deux femmes s'étaient connues 57 ans plus tôt, quand Gaëlle était revenue habiter en France après avoir passé 16 ans aux États-Unis. Louise avait été un des mécènes du musée. Elle se vouait depuis une amitié sans faille. Si Gaëlle avait la chance d'avoir une partie de sa famille auprès d'elle, Louise ne voyait la sienne qu'une fois par an, et c'était elle qui se déplaçait.